Salut Daniel, c'est Lucas et Jérémy. Il est exactement 3h du matin et ça fait une semaine que l'on occupe notre lycée Max Linder à Libourne. Là, nous apprêtons à mettre des chaînes au portail des deux entrées pour consolider. Bon, certes, il y a des barricades, mais comme lundi, il risque d'avoir un mouvement peut-être d'anti-blocage. Il faut qu'on perfectionne les entrées. Donc voilà, c'est un petit message, puis aussi un petit message à tous les camarades qui se battent à travers la France contre ce gouvernement autiste et libéral. Je leur passe un grand merci et je dis bravo à tout le monde et qu'on continue, on les aura. Salut Daniel et salut à toute l'équipe.
Bonjour, alors je m'appelle Elisa, je suis étudiante à Paris 3 Sancier, étudiante en grève. Je fais partie du comité de mobilisation et de grève de ma fac et je suis précisément à la commission animation et je voulais faire une petite annonce pour dire que on organise toute la semaine des débats, voilà, pour faire que cette fac en grève vive. On organise aujourd'hui même un débat, bon, il est en train d'avoir lieu sur les métiers de la presse. Demain, mardi 28 mars, à 9h30, un débat sur les assises de la précarité, donc avec des inspecteurs du travail, des associations. Mercredi, un débat sur la répression policière avec comme invité Ahmed Meghini et son avocat, maître Philippe Aillon, des représentants de l'UNSA Police. Jeudi 30 mars, à 9h30, on projette un film qui s'appelle Punishment Park. Vendredi, à 9h30, on a un débat sur la précarité et le statut des sans-papiers. Voilà, et à partir de 14h, on organise un grève en fait, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère et aussi de se faire du bien, parce que la lutte, ça peut aussi être ça. Et donc de 14h à 17h, on organise une scène ouverte, voilà, qui est vraiment ouverte à tous, donc toutes les envies de lecture, théâtre, musique, tout ce que vous voulez. Et à 17h, des concerts surprises où a priori on aura de très bons groupes. Voilà, et j'invite tout le monde donc à se rendre à Paris 3 Sancier vendredi 31 mars pour grève en fait à partir de 14h. Voilà, au revoir et à bientôt.
Oui, bonjour, c'est Florence de Strasbourg. Alors voilà un message d'Attaque Strasbourg à propos du CPE. Après des semaines de manifestations opposées au contrat première embauche, la mobilisation est à un moment décisif. Le gouvernement cherche à anesthésier le mouvement en faisant mine de vouloir négocier. Ne nous y trompons pas, il s'agit de manœuvres. C'est le texte entier qui doit être retiré. Notre association souhaite en effet montrer la logique de fond qui sous-tend le CPE. La précarité, présentée comme une solution au chômage, est en réalité la nouvelle norme de l'emploi dans une société néolibérale. Nous sommes opposés à ce projet parce que nous savons que d'autres politiques sont possibles qui garantissent solidarité, justice et sécurité sociale. Au-delà du CPE, c'est donc la bataille des idées qu'il nous faut gagner. Attaque Strasbourg invite donc ses adhérents à participer à la manifestation du mardi 28 mars, départ à 14h, place Kléber, à Strasbourg. Au revoir.
C'est Christian de Strasbourg. Je voudrais dire à tous ceux qui vont mardi manifester, attention, pour raison d'État, tous les coups bas de la part du pouvoir vont être permis. Rappelez-vous, jadis, et c'est pas si vieux, une organisation nommée SAC, dans laquelle ne figurait pas vraiment d'enfants de cœur, était aux ordres du pouvoir pour les basses besognes, du style infiltration de manifestations, pour les faire dégénérer. Alors attention, prudence à tous. Au revoir.
Voilà, moi je vous appelle parce que j'ai un tout petit problème avec tout ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune confiance chez les jeunes. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je me rappelle de mes 20 ans où on bougeait, on avait envie d'aller sur un boulot, puis d'aller sur un autre, et puis d'apprendre. Et puis des fois je démissionnais, et puis un jour j'avais envie de faire de la photo, le lendemain d'être menuisier, charpentier de marine. Enfin, il y avait tout ça. Enfin, en tout cas, on se sentait invincible. L'avenir, c'était... C'était quelque chose qui n'était pas un problème. La trouille, ça vient plus tard. La trouille, ça vient quand on commence à avoir 40 ans et qu'on se dit bah, il faut effectivement se stabiliser, mais pas à 20 ans. À 20 ans, on a envie de bouger. À 20 ans, on a envie d'apprendre. À 20 ans, on a envie de partir loin, à l'étranger, revenir, puis rechanger encore. Enfin, nourrissez, quoi. Nourrissez votre esprit. N'ayez pas peur de bouger, de changer. On a l'impression qu'en ce moment, le rêve de tout le monde, c'est un boulot pour toute une vie, la retraite, et voilà. Eh ben merde, quoi. Moi je suis déçu par tout ça, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'envie, qu'il n'y a plus il n'y a plus le courage et il n'y a plus ce sentiment d'invincibilité de la jeunesse, quoi. Et ça me manque, putain. tu m'étonnes qu'on a un pays qui part vers le bas, quoi. C'est vous les jeunes qui faisaient monter, c'est pas nous, quoi. Enfin, en tout cas, il y a pas, ça fout quand même bien le cafard tout ce qui se passe en ce moment. Là, je viens de me taper 5 heures de voiture, j'écoute la radio depuis le début de l'après-midi, franchement, c'est pas gay, il y a vraiment de quoi déprimer. Enfin, j'espère que tout ça ira mieux. Allez, ciao à tous.
Oui, bonjour, je m'appelle Nicole Fleury, j'habite à Ferrel, dans le Morbihan. C'était simplement pour transmettre, parce qu'il y a que par vous, je pense que ça peut arriver, transmettre à Stéphane Paoli et à toute sa famille mes pensées les plus profondes. La souffrance est quelque chose, et la maladie est quelque chose de très grave, de très déstabilisant pour toute une famille. Donc à lui et aux siens, beaucoup de choses, beaucoup de pensées très positives. Voilà, et vous, continuez comme d'hab. Salut.
Voilà, et toute l'équipe de la base, j'y suis, évidemment, s'associe à ce message d'une auditrice. On a reçu pas mal de messages comme ça pour souhaiter à notre Stéphane Paoli un très prompt rétablissement. On sait que la bête est solide et que c'est une question sans doute de jours, en tous les cas d'un temps très court que nous souhaitons très très court. Aujourd'hui, on va donner suite un petit peu à tous ces messages avec François Ruffin, le message de cet auditeur qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette jeunesse? Qu'est-ce qu'ils foutent aujourd'hui? Moi, c'était formidable. On avait plein d'aventures, etc. » Est-ce que c'est la jeunesse qui a changé ou bien est-ce que c'est les temps qui ont changé? Et puisqu'il s'agit essentiellement de travail, est-ce que c'est pas plutôt les conditions du travail qui ont changé et non pas la jeunesse en tant que telle? Ce serait bien possible. En tous les cas, on est parti de cette hypothèse avec François Ruffin pour se dire que, bon, il y a évidemment le CPE, c'est la grande affaire, mais est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt de la précarité? Il y a le CNE derrière. Et puis, on s'est souvenu du fameux film de Gilles Balbastre, Le chômage a une histoire, et on s'est dit, on va essayer de partir de la même idée, la précarité a une histoire. Alors, c'est une pochade, c'est une esquisse, on n'est pas devenu brusquement des historiens de la précarité, mais quand même, en rencontrant des inspecteurs du travail, c'était ces jours derniers les états généraux de l'inspection du travail, mardi et mercredi dernier, 21 et 22 mars à Paris, et cette profession des inspecteurs du travail sont très très inquiets de voir bafouer chaque jour un peu plus le code du travail qu'ils sont censés évidemment défendre, et les acquis que constituent, qui sont en forme de loi, dans le marbre de la loi, dans ce code du travail, on s'aperçoit que ce n'est que du papier sur lequel l'encre parfois a tendance à s'évaporer. Alors voilà. La précarité a une histoire, c'est notre histoire actuelle et notre thème d'aujourd'hui dans la Basse. J'y suis. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la Basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Voilà, je vous appelle, j'étais à la manif hier, place d'Italie, Invalide, et je voulais rejoindre le cortège, je suis arrivé un peu en avance, je suis donc arrivé avant le cortège. Et j'ai vu vraiment débarquer une horde de jeunes en survêtement, avec des capuches, des écharpes, et qui se déplaçaient comme un essaim d'abeilles et qui cassaient tout sur le passage. J'ai senti les jeunes qui manifestaient, apeurés, qui essayaient de se protéger, qui étaient soudés les uns aux autres. C'était un petit peu pathétique. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose, parce que franchement, les casseurs, comme on les appelle, c'était vraiment très impressionnant. J'ai vu les casseurs agresser des jeunes filles, essentiellement des femmes, leur piquer un portable, leur piquer un sac, des dames âgées aussi qui avaient été agressées par ces jeunes. Je les ai vus après à Montparnasse, sur l'esplanade de Montparnasse, dévaster toute une rue, les voitures, les vitrines. Et après j'ai essayé de rejoindre la manifestation en passant par les petites rues jusqu'aux Invalides. Et là, la même chose, ils cassaient tout. Et je suis parti dégoûté à 5h30. Et j'ai vu qu'après, à 6h, ils avaient tout cassé, que les CRS n'étaient pas intervenus ou un peu tard. C'est vrai qu'il y avait moins de CRS que aux précédentes manifestations. Voilà, c'est juste un témoignage. Voilà, au revoir.
Allô, la Bastille, j'y suis, et tous les auditeurs. À propos de Cyril Ferrez, le militant de Sud PTT, qui se trouve dans le coma depuis le 19 mars, Maître Bourdon, son avocat, l'avocat de la famille, dit ceci. Cyril Ferrez, qui était isolé et portait un badge Sud visible, ne pouvait être considéré comme une personne menaçante. Si son alcoolisme explique peut-être sa conduite irrationnelle, cet état d'évidence n'en faisait pas une source de danger. Et il a fait l'objet d'une véritable raclée, d'un passage à tabac, pendant un temps important, par une quinzaine de CRS. De nombreux témoignages rapportent le fait que les CRS n'interviennent pas et laissent faire les soi-disant casseurs. Et pendant ce temps, ils cassent la jeunesse et ils cassent du syndicaliste.
Salut Daniel, ça concerne les élections israéliennes qui commenceront demain. Un parti politique israélien, ultra-orthodoxe, ultra-religieux, dont le numéro 2 est un rabbin, a promis le paradis, je dis bien le paradis, à ceux qui voudront pour ce parti. Est-ce qu'il serait possible de transposer ça en France en disant que ceux qui voteront Sarkozy iront en enfer? Ça, je pose la question.
Salut, c'est Daniel Mermet avec François Ruffin. Là-bas, si j'y suis, la précarité a une histoire.
Flight number 2, arriving from...
Et qu'est-ce qu'on veut?
La retraite!
De quoi?
Du secteur!
De quoi?
Du secteur!
Et qu'est-ce qu'on veut?
La retraite!
De quoi?
Du secteur!
De quoi?
Du secteur!
Et qu'est-ce qu'on veut?
La retraite!
De quoi?
Du secteur!
De quoi? Et qu'est-ce qu'on veut?
Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. En 68, c'est ce qu'on ne voulait plus. En 2006, c'est ce que l'on veut. Du boulot, absolument, du dodo, un logement, et puis accessoirement du métro. C'est vrai que ça, c'est moins important. Mais le plus important, c'est le boulot. Comment est-on passé de ce slogan des années 60, fameux slogan des situationnistes des années 60, qui disait « ne travaillez jamais ». Comment est-on passé de ce souhait, de ce défi, à aujourd'hui où tout le monde est là, voulant prouver par le travail sa place, son revenu, son existence? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a basculé? On a essayé à plusieurs reprises de retracer l'histoire du chômage. Il y a l'histoire aussi de la précarité. C'est pas tout à fait la même chose, le chômage et la précarité. Pour essayer de comprendre ce qui nous saisit tous aujourd'hui dans ce pays, et sans doute pas seulement dans notre pays, cette angoisse face à l'insécurité sociale généralisée, est arrivé petit à petit dans notre pays, dans nos sociétés. Cette lutte permanente et ancienne déjà de la lutte du travail contre le capital et du capital contre le travail a connu un nouvel épisode entre le milieu des années 60 et aujourd'hui. On ne dit pas que tout le monde se réveille enfin aujourd'hui, mais les combats n'ont pas manqué, les consciences n'ont pas manqué de s'éveiller, les expériences aussi de s'accumuler. Comment en est-on arrivé là? Il est précieux, je pense, pour les jeunes générations, pour ces lycéens et ces étudiants qui aujourd'hui, à toute vitesse, en quelques semaines, sont en train de se faire une éducation politique, sociale, formidable, et avec eux, leurs parents qui révisent leurs cours et leurs leçons vérifient leurs expériences et qui parfois utilisent leurs expériences pour éclairer leurs enfants. C'est toute une angoisse, une inquiétude, mais qui se transforme pour une fois en une lutte et une jubilation, avec évidemment tous les risques et tous les pièges que cela comporte. Donc avec trois inspecteurs du travail, parmi ceux qui étaient réunis, parmi les 800 qui étaient réunis mardi et mercredi dernier à Paris pour faire le point sur ce métier. Vous vous souvenez comment deux inspecteurs du travail, il y a peu, avaient été assassinés et comment... La réaction avait été relativement, en tous les cas, ingrate pour ce métier. C'est un peu à la suite de ça que ces états généraux ont eu lieu et ça a été l'occasion de faire l'état un peu de ces, non seulement de ce métier, de cette branche d'activité, mais évidemment de la situation du travail, de la précarité et de cette angoisse qui caractérise l'époque et qui dépasse largement les frontières. C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis. La précarité a une histoire.
Les idées saines, qu'est-ce que c'est ?
Les Français sont parisiens.
Car ils ne savent pas qu'à force de ne pas travailler, ils ne travailleront plus du tout.
Il va être possible de travailler plus pour gagner plus.
Les Français sont paresseux.
Pour en finir avec une spécificité française, le déficit de travail.
35 heures.
Et nous, comme des imbéciles, on dirait, mais avec tous ceux qui n'ont pas travaillé, bon, on va tous au chemin, c'est tout. C'est ça la vérité.
Les Français sont paresseux.
Rendre au travail sa place dans notre société.
Il ne faut pas travailler, il faut gagner beaucoup d'argent, il faut partir en vacances.
Les Français sont paresseux.
Julie, ça fait 3 ans. 3 ans que Julie pour rien. Toi, ça fait 2 ans que tu pour rien. Laetitia, ça fait 4 ans qu'elle ne fout rien. On fait de rien.
On savait pas que le travail, c'était dur à trouver.
Moi, je comprends pas, franchement, non. Vous êtes déjà pas capable de vous lever le matin pour aller chercher.
Bah, toi, pareil, c'est quand on peut les rire.
Bah, si, c'est que quand on cherche, on trouve.
Ça veut dire surtout que quelque chose ne tourne pas rond dans le travail aujourd'hui en France.
Les Français sont paresseux.
Bonjour, paresse.
Rien à craindre, qu'à pas travailler, on va en vacances tout le temps.
Les RTT qui ont créé de mauvaises habitudes.
Pour pas travailler, pour pas travailler.
5 heures.
Mais de là à dire que ce qui est bien, c'est attendre son chèque à la fin du mois sans en ficher une rage.
35
heures. Mais vous n'avez pas encore convaincu la France qu'elle devait se remettre au travail.
Il faut gagner plus, c'est très bon.
Se défoncer pour une grande entreprise, c'est trop con. Tu es sûr de te faire avoir.
Bon, on va tous au chemin, c'est tout.
Il faut travailler plus. On travaille plus assez longtemps.
Les Français sont paresseux.
Pas un jour sans de nouveaux propos provocateurs de la part du MEDEF exigeant toujours plus de flexibilité, toujours plus de précarité comme seul remède contre le chômage. Avec zèle et empressement, le gouvernement démantèle allègrement le code du travail sous prétexte de créer des emplois. On précarise à tout va, CNE, CPE, permettent aux patrons de virer les salariés sans motif et sans procédure. Point de suspension, une première depuis 1973. Qu'est-ce qui s'était passé en 1973? Les lignes que je lis sont diffusées par les syndicats du ministère du Travail et des inspections du Travail, des Transports et de l'Agriculture, CFDT, CGT, etc., qui étaient réunis lors de ces états généraux de l'inspection du Travail. Face au libéralisme et à la déréglementation, le thème est précis. Et le travail, donc, on peut l'imaginer sur le travail. Et on est allé évidemment très très fort. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est 1973. Qu'est-ce qui s'est passé en 1973? Tout ça, évidemment, sans doute, n'est pas arrivé du jour au lendemain. Alors, on a demandé à deux inspecteurs du travail qui ont préféré rester dans l'anonymat. On va donner simplement leur prénom. L'un s'appelle Yves et l'autre Gilbert, de retracer l'histoire de cette précarité.
Alors, je voudrais qu'on monte aux années 70. C'est le moment où, finalement, le code du travail est le plus solide.
Bon, déjà, le droit du travail est le résultat des luttes sociales. On prend un exemple en matière d'accident de travail, la loi de 76 sur la prévention, la grande loi hygiène sécurité, a été adoptée après qu'un juge Charette, ait mis en prison un patron suite à un accident mortel. En 73, c'est la loi sur le licenciement, c'est-à-dire que depuis la loi de 73, on n'a pas le droit de licencier quelqu'un sans cause réelle et sérieuse. Le CNE comme le CPE, on revient à la situation antérieure à 73.
Donc c'est en 73 qu'il y a une obligation de motiver un licenciement.
Oui, c'est la loi 73. En 75, il y a la loi sur l'autorisation administrative de licenciement, qui a été supprimé en 86.
Donc on voit ces trois dates, 73, 75, 76, ces trois lois qui viennent donner davantage de droits aux salariés et davantage d'obligations à l'employeur. Quelle est la dynamique qui est en cours là, à ce moment-là, durant les années 70?
Ben, la dynamique, elle est, bon, ben, en gros, c'est le droit du travail 36, grande grève générale, les conventions collectives, les délégués du personnel, à la libération, les comités d'entreprise, une avancée sociale importante. Et après, 68, avec la reconnaissance du droit syndical dans l'entreprise et du délégué syndical.
C'est-à-dire que le droit du travail évolue en fonction des luttes sociales. Donc il y a trois grands moments dans les luttes sociales. Il y a 36, donc là, à ce moment-là, il y a une première série de mesures qui est prise. Il y a 45, avec le Conseil national de la résistance, une seconde série de mesures qui est prise. Et troisième poussée sociale, c'est 68, où là, dans l'après-68, donc qui dure grosso modo jusqu'en 75, là...
Jusqu'au choc pétrolier, les politiques d'austérité et l'arrivée de ce qu'on appelle la flexibilité.
Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ces risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections.
En 1967, et en 44 secondes que vous venez d'entendre, Georges Pompidou trace le début de la révolution conservatrice néolibérale. Désormais, la précarité, désormais, la concurrence, finie, ces Français paresseux et assistés, il va falloir se bouger, il va falloir bouger à défaut d'être, archaïque, pas moderne, etc. La chanson commence là, c'est sans doute, la première note de la chanson. On va voir avec, à travers d'autres archives, comment cette déréglementation, cette précarisation, a évolué, s'est installée peu à peu dans le travail, dans les mœurs, dans la politique et dans les consciences. On est avec nos deux inspecteurs du travail, Yves et Gilbert.
Là, on a décrit une série d'avancées, en tout cas dans le droit, dans le code du travail, mais en même temps, durant ces années 70, il y a une montée du chômage, et en même temps, il y a un second mouvement qui va dans le sens de l'installation, malgré tout, d'une certaine flexibilité.
Tout à fait. À partir de 74, avec Barre, on commence à attaquer effectivement, au nom encore une fois de l'insertion dans l'entreprise et dans l'emploi, on va créer des statuts complètement dérogatoires, la création de ce qu'on a appelé les stages pratiques en entreprise, ensuite les SIVP, et tout ça en plus, sur financement public. C'est ça qu'il faut dire aussi. Non seulement les salariés sont plus dans une situation normale et habituelle, légitime d'un CDI, mais en plus, les employeurs, sous différentes formes, ça a pris différentes formes, des primes, des exonérations de charges, le fait qu'on pouvait payer en dessous du SMIC, etc. Et tout ça a cru et embelli.
Et l'intérim, par exemple.
Alors justement,
l'intérim, ça commence
dès les années 60, notamment, par exemple, dans des branches entières comme l'automobile ou le bâtiment et travaux publics, où se développe, la sous-traitance, et donc jusqu'en 72, normalement, l'intérim est illégal. À l'époque, le ministère a un discours un peu hypocrite, et c'est de dire c'est illégal, mais en fait, dans la réalité, on le laisse se développer. L'intérim, qui est une création nord-américaine, le numéro un de l'époque de l'intérim, c'est Manpower, qui, dans les années 60, a introduit en Europe, et notamment en France, le concept d'intérim, qui jusqu'à la loi de 72, qui lui donne un statut légal, est parfaitement illégal.
Mais alors, vous étiez inspecteur du travail à ce moment-là?
Moi, j'étais inspecteur du travail en 73, mais j'étais dans les services avant 72.
Donc, mais alors, comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui est illégal? Et parce que Manpower, il devait avoir des agences où on voyait marqué Manpower.
Tout à fait.
Quelque chose qui est illégal et qu'on laisse s'installer, qui s'installe en place publique.
Bon, alors, si vous voulez, il y avait deux éléments. D'abord, ça n'avait pas l'importance que ça a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 700 000 équivalent temps plein intérimaire qui travaille chaque mois. Donc ça veut dire beaucoup plus de monde, puisque les missions, la durée moyenne d'une mission, c'est 15 jours. À l'époque, ça n'avait pas l'importance numérique que ça avait. Et à l'époque, sur le marché du travail, les gens avaient encore le choix entre l'intérim et une insertion normale sous CDI. Ce qui a été dramatique, c'est que c'est devenu une forme qui s'est développée quantitativement et surtout qui aujourd'hui est un intérim massivement subi.
72, sa première grande date de la précarité finalement.
On donne un caractère légal à l'intérim qui normalement était illégal.
Pourquoi on légalise à ce moment-là l'intérim?
Parce qu'on a dû considérer à l'époque que, un, ça allait pas devenir le phénomène de masse que c'était, et puis deux, il y a eu un choc politique, là aussi, de se dire, donnons un caractère légal à quelque chose qu'on peut pas empêcher, ou qu'on ne veut pas empêcher.
Et du côté de l'inspection du travail, comment réagissaient les agents à cette première installation d'une précarité?
La réaction, ça a été de dire, bon, puisqu'il y a eu un choix politique de légaliser cet intérim, contrôlons le mieux. On a eu cette illusion-là qu'en contrôlant l'activité notamment du travail temporaire et des utilisateurs, on arriverait à endiguer et à moraliser le système. La suite nous a donné tort.
Les entreprises de travail temporaire ont pris une importance grandissante depuis 20 ans, date de leur apparition aux États-Unis, et depuis une quinzaine d'années, date de leur apparition en Europe. Actuellement, 100 000 travailleurs sont touchés en France par le travail temporaire. C'est en valeur absolue un chiffre important, mais nous pensons que le travail temporaire ne doit conserver qu'un caractère marginal et ne pas influer lourdement sur le marché de l'emploi.
Mais est-ce que vous ne rencontrez pas, par exemple, des spécialistes du travail temporaire, des gens qui ne veulent faire que ça?
Il arrive que nous ayons des spécialistes du travail temporaire de deux catégories, des travailleurs que nous appelons les hommes de chantier et qui se déplaçaient d'entreprise en entreprise et qui chez nous trouvent une certaine régulation de leurs emplois, et les femmes qui, pour des raisons familiales, ne veulent travailler que 3 ou 4 mois par an. Mais on peut dire qu'en général, le travailleur temporaire est un travailleur classique qui vient d'un emploi permanent, qui cherche chez nous un dépannage momentané, qui retourne en emploi permanent dans un délai bref.
Un dépannage momentané, c'était en 1969, ce document de l'ORTF, l'Office Radio de Télévision Française, et c'était au journal télévisé, et le journaliste Bernard Pradino interroge un responsable du travail temporaire qui en limite le caractère. Il y a 100 000 travailleurs précaires à l'époque, mais des travailleurs qui sont touchés par la précarité. On sait très bien en 69 qu'il s'agit d'une forme dégradée de travail, et on essaiera, on se promet d'en limiter les effets et la dimension dans le monde du travail. 33 ans après, écoutez ce document.
Adecco, numéro 1 du travail temporaire.
Vous êtes intérimaire?
Vous êtes intérimaire, oui. C'est mes mères.
Vous aussi?
Oui.
Là, c'est un groupe d'intérimaires.
Là, oui. Vous êtes intérimaire aussi?
Intérimaire aussi, oui.
Vous êtes de Montbéliard?
Non, Besançon.
Besançon? Ouais, vous êtes de loin, alors?
Ouais, de loin.
Et vous habitez à Besançon?
Non, on habite là, on prend le car à la navette qui nous ramène ici.
Et c'est quelle maison d'intérim vous travaillez?
C'est intérim 25.
C'est intérim 25 aussi?
Non, à l'école, automobile.
Sur Montpellier?
Oui.
Et vous avez choisi de venir à l'usine ou...
Comment?
T'échanges deux mots avec ton collègue, on te dit que tu parles trop. T'as besoin d'aller chercher de la marchandise ailleurs dans l'usine parce que t'en as besoin pour ta machine, pourquoi tu te balades? Donc c'est devenu, faut pas parler, faut pas que le boss il te croise en train d'aller chercher quelque chose au fond de l'usine. Syndicat, faut surtout pas en parler, faut pas se plaindre, faut dire t'es content, t'es d'accord. Je me souviens même d'un ouvrier qui m'a dit récemment, ne les contrarie pas trop. Parce que quand il nous avait montré un peu l'usine, ce qu'il fallait faire pour que ce soit nickel, que ce soit bien, bien propre, j'avais posé la question, mais c'était ironique, hein, c'était pour rire, on a augmenté combien? Et même un employé qui est là-bas depuis 9 ans s'est retourné, m'a dit ne les contrarie pas trop, tais-toi. Ne les contrarie pas trop, tais-toi.
Adecco, numéro 1 du travail temporaire.
Jetable, c'est l'angoisse, c'est la revendication, ce que dénoncent aujourd'hui des milliers, des centaines de milliers de jeunes lycéens et étudiants. Mais dans ce document, on le voit, récent, de 2002, la précarité, l'emploi jetable, s'est installé dans le monde du travail, dans le monde ouvrier, dans le monde salarié. Entre les deux, un autre document qui date de 1980, c'était sur TF1, avant que TF1 ne soit privatisé, au journal télévisé, on s'interrogeait longuement avec des reportages pointus sur le travail temporaire, et c'était pour le dénoncer.
Si le travail temporaire répond à une certaine nécessité économique, trop souvent les travailleurs intérimaires sont les victimes d'abus et de procédés que désapprouvent les vrais professionnels. Nicole, agent technico-commercial dans une agence d'intérim, explique quelques-unes de ses pratiques.
Qui sont les gens qui viennent dans votre agence ?
Pour la plupart, des manœuvres en jardinage. Hein. Il arrive quelquefois qu'il y ait un petit peu de personnel qualifié, mais enfin, c'est pas très courant dans cette agence-là. L'agence dépêche un directeur commercial qui va recruter dans des centres d'hébergement, hein, où il propose du travail. Les gens sont quand même tenus de venir.
Ils sont pratiquement obligés d'aller travailler.
Pratiquement. Si ils refusent de venir travailler, leur centre d'hébergement ne les reprend plus. Hein. Alors ces gens viennent donc à 6h15. Peut-être y aura-t-il un emploi. Peut-être pas, parce qu'il y a souvent un très grand nombre de gens pour le petit peu d'emplois proposés, mais il ne faut quand même pas qu'on manque, que l'agence manque de main-d'œuvre. Hein. Donc il vaut mieux dire oui, venez demain matin, pas de problème, à 6h15 à l'agence, et ils sont là.
Donc c'est les premiers qui sont là qui sont pris.
Pas forcément, ça se fait aussi, enfin, il y a une histoire quand même de racisme, de couleur, des gens qui parlent pas français, d'autres qui sont bien de chez nous, des bons gaulois, enfin bon, tout ça c'est quand même des critères de sélection. Hein. Mm-hmm. Alors ces gens-là sont donc envoyés sur les lieux de travail en estafette le premier jour, hein, de manière à ce qu'ils ne se perdent pas dans la nature. Ensuite, ils iront de leurs propres moyens. Hein. Quand la personne vient à 6h15 à l'agence le matin pour ne commencer son emploi qu'à 8h ou qu'elle revienne le soir, vous avez environ 12 à 13 heures d'heures effectives, mais 8 heures de rémunérées. Il n'y a jamais de mission à durée déterminée, donc ils ne savent pas la veille où ils iront le lendemain, enfin pas toujours.
Ah oui, ils ne savent pas combien de temps va durer la mission.
Jamais.
Mais en principe, ils devraient le savoir.
Non. Enfin, ils devraient le savoir, oui, mais ça ne se fait pas. Et puis pour une cause que la personne ne sait jamais d'ailleurs pratiquement, on lui dit, bah oui, mission terminée, il y a une petite croix dans le petit
papier. Pourquoi font-ils ça? Pour allécher, pour décider les gens à venir travailler?
Ah, bien sûr, parce que si vous dites à un intérimaire qu'il a un travail pour la journée ou pour deux jours, à 12,50 l'heure, je ne pense pas qu'il sera très intéressé.
La loi qui régit aujourd'hui le travail temporaire est nettement insuffisante et une nouvelle réglementation est à l'étude. Elle devrait assurer une meilleure protection à ce million de salariés qui, chaque année, passent par les agences de travail temporaire.
Faut cumuler, c'est ça, tu sais, il faut cumuler.
Précarité a une histoire, CPE, le CPE cache le CNE qui cache lui aussi toute une longue, longue histoire de la précarité, comment la précarité s'est installée peu à peu dans notre société, dans notre culture, dans nos esprits, comment on nous a présenté ça, comment on nous a fait avaler ça jusqu'à aujourd'hui. Ben voilà, il y a un rejet, c'est pas ça, date pas d'hier, hein. Il y a eu d'autres rejets, pas seulement parce qu'on dit oui, c'est une... Quand on essaye de prendre des dispositions contre la jeunesse, ça marche jamais, etc. C'est pas seulement ça. C'est une étape de plus dans ces luttes contre les fameux acquis. Parce que ça, les dates des acquis, on les connaît, 36, 45, 68. Mais les dates des régressions, les dates des lois contre contre ses acquis, contre ses conquêtes sociales. La marche de la précarité est beaucoup moins connue et les dates charnières sont beaucoup moins précises dans les esprits. Si toutefois on s'intéresse un peu à l'histoire sociale, à l'histoire du travail, on s'intéresse à d'autres, ou on nous intéresse à d'autres sujets et assez rarement à ceux qui nous concernent quotidiennement tous. Donc on est avec ces deux inspecteurs du travail à l'occasion de ce congrès à Paris, Yves et Gilbert, qui avec François Ruffin retracent cette histoire. Donc on a vu 72, 74 et maintenant on arrive en 79.
Deuxième date de la précarité, c'est 79. Qu'est-ce que c'est que 79?
La loi 79, c'est un peu comme la loi 72, c'est d'encadrer et de formaliser le recours au CDD. Ceci dit, là aussi pareil, c'est-à-dire qu'on n'a pas mesuré ou on n'a pas voulu mesurer. Je dis bien, on n'a pas voulu mesurer. Parce que en 79, les phénomènes d'externalisation, ce qu'on a appelé dans l'industrie l'externalisation, la sous-traitance généralisée, étaient déjà largement entamés.
Quand en 72, il y a cette loi sur intérim ou en 79, la loi sur les CDD, oui. Il y a une bataille, les syndicats se positionnent contre cette loi sur les CDD, où à l'époque, comme c'est un phénomène encore marginal, on perçoit pas l'importance tout que ça fait. Peut avoir dans le code du travail.
Je vous donne l'exemple de la loi sur l'intérim. Par exemple, la CGT, qui était opposée à l'intérim, n'a pas voulu participer à la négociation de la convention collective. La CGT à l'époque, c'était une position de principe, mais la CGT elle-même ne pouvait pas imaginer les ravages et le développement que ça allait prendre.
Finalement, là, en légalisant l'intérim, on a espéré l'endiguer, mais c'est pas vraiment ce qui s'est produit.
Ah non, pas du tout.
Par rapport à ce que dit Gilbert, bon, nous sommes des praticiens un peu, mais des grands juristes comme Gérard Lioncamp ont dit d'emblée, attention, c'est que en légalisant, on légalise le fait. Alors, on légalise toujours dans l'alibi de dire on va encadrer pour limiter, mais on se rend très bien compte que, au contraire, ça fait presque un appel d'air, c'est-à-dire que à la limite, on va éliminer quelques margoulins, ça s'est passé en 82.
Alors, mais 82, en même temps,
oui, 82, donc arrivée de la gauche au pouvoir, les premières ordonnances, donc dans les lois Roux, on dit globalement donc 39 heures, 5 semaines de congés payés, et des ordonnances donc sur les CDD et l'intérim, avec toujours donc ce débat en disant on va encadrer par la loi, sans voir que alors ça a permis effectivement de faire un peu le ménage de certaines entreprises que tu.
Finalement, ça voulait dire que tout en le réglementant, y compris la gauche, accepter qu'il y a un développement de l'intérim, accepter qu'il y a un développement des CDD, accepter cette flexibilité, quoi.
Bien sûr, complètement.
Si on reprend 72, c'est la loi sur qui légalise l'intérim. 79, c'est la loi qui légalise et réglemente le recours au CDD. 82, c'est la loi, les lois Auroux, qui légalise la flexibilité, pour ainsi dire. Ensuite, pendant deux décennies, notamment sur ces bases juridiques-là, il va y avoir un développement...
Une explosion. Une explosion d'intérim avec des secteurs entiers où... bon, il y a des situations où il y a des chantiers, par exemple, où il y a un chef de chantier et que des intérimaires, c'est arrivé... ou des secteurs d'activité, on prend l'automobile, où on peut avoir en même temps, moi j'ai vu le cas, licenciement économique, heures supplémentaires et 600 intérimaires pour 2000 personnes.
Et c'est des gens qui vont passer 2, 3, 4 années, parfois, à enchaîner des CDD, de l'intérim. Mais là, bon, la loi, elle n'est pas respectée dans ce cas-là.
La loi n'est pas respectée sur le principe, mais en général, ils vont s'arranger pour donner les apparences de respect de la loi. Alors, on va succéder des CDD pour remplacement des personnes absentes. Après, on va prendre un surcroît d'activité. Parce que les surcroît d'activité, c'est par rapport à un motif. Donc, on va changer de motif. Donc, on va dire, par exemple, surcroît d'activité lié à construction ligne 1. Et puis après, on va refaire un autre surcroît d'activité lié à construction ligne 2, par exemple. Bon, la loi est globalement bafouée. Moi, quand j'ai commencé, en 82, par là. Une entreprise de 10-20 salariés, il y avait une immense majorité de CDI. Il y avait un ou deux CDD et trois contrats d'intérim. Là, on pouvait regarder. Lorsque les proportions sont complètement inversées, qu'on n'a plus que 2-3 personnes en CDI et tout le reste en intérim et sur le contrôle, ça devient quasiment mission impossible dans les faits.
Pendant toutes ces années-là, aujourd'hui, on en est à un point où 80%, 8 embauches sur 10 se font en CDD ou en intérim.
Sous forme précaire.
Sous forme précaire, ouais. Où depuis 10 ans, le nombre de personnes en CDD a augmenté de 60% et le nombre d'intérims de 160%.
Il faut dire aussi que pendant toutes ces années-là, avec la montée, la persistance, l'augmentation du chômage de masse, s'est développée l'idée que valait mieux de l'intérim que le chômage. Valait mieux des CDD que le chômage. C'est une soupe qu'on nous ressort encore aujourd'hui. Bon, c'était le même raisonnement. C'était de dire, si on donne de la souplesse aux entreprises via l'intérim ou les CDD, elles n'hésiteront pas à prendre des marchés, elles n'hésiteront pas à demander... C'est, encore une fois, on voulait jouer le droit du travail contre le droit au travail ou l'inverse. Le résultat, c'est que globalement, c'est pas ça qui a réglé les problèmes d'emploi, et de loin. Mais par contre, ça a de précariser des pans entiers, parce que sur le fond le raisonnement est faux, et que ce qu'on visait pas, c'était pas forcément le plein emploi, mais la compétitivité des entreprises pour aller vite. La précarisation n'a rien apporté, il faut le regarder sur 30 ans, n'a rien apporté en termes d'effet de création d'emplois. Par contre, ça a eu un effet durablement et socialement très dévastateur, et notamment alors c'est les jeunes.
Tout va bien, quoi. Pas de soucis, mais à part l'avenir, quoi, mais bon. Je comprends pas, c'est justement, j'ai travaillé en intérim, j'ai fait 16 entreprises, sur 16 entreprises, on ne peut pas garder, quoi. Bon, c'est sûr, c'est de l'intérim. Mais... je comprends pas, quoi. Ouais, parce que c'est stressant, quoi, c'est même invivable. J'ai l'impression d'être comme un objet sans vie, quoi. Je ressens plus rien, je suis paumé, quoi.
La précarisation n'a créé aucun emploi. C'est quand même important de le constater, de le savoir sur une période aussi longue, en dépit de toutes les promesses des employeurs, du MEDEF ou des patrons ou des gouvernements successifs. La flexibilité, la précarisation n'ont créé aucun emploi. Il faut quelques chiffres peut-être. Il faut rappeler que le travail, la population active au travail atteint 27,30 millions de personnes, dont 46,5% de femmes. Et il faut souligner les financements massifs d'aide aux entreprises au nom de l'emploi. Et ces financements, pour 2004, pour donner une idée, s'élevaient à 24,5 milliards d'euros. Un record absolu depuis leur apparition en 1973. Ces indemnités ont été multipliées par près de 40, ce qui représente 19 700 euros par emploi créé ou sauvé, c'est-à-dire l'équivalent d'un an de SMIC. Donc la précarité ne crée pas d'emploi, la flexibilité ne crée pas d'emploi. Par contre, le soutien aux entreprises pour maintenir les emplois est massif. On continue donc l'histoire de cette précarité avec ces deux inspecteurs du travail.
En même temps qu'il y a ce développement de la précarité, du CDD, de l'intérim dans le secteur privé, dans le secteur public ou dans le secteur associatif, il va y avoir le recours à un certain nombre de TUC, les travaux du...
Il y a un double mouvement qui est, si on prend bien en compte, qui est au cœur du mouvement actuel sur le CPE, sur le CNE, qui est l'enjeu fondamental. D'un côté, donc, on voit bien cette explosion de la précarité, mais les règles, la référence reste le contrat à durée indéterminée à temps plein, donc un contrat protecteur, et qui, dans les faits, reste le contrat majoritaire. Dans le même temps, on met en place des politiques de l'emploi où là, on expérimente d'autres statuts. Donc, par exemple, par rapport au TUC, les gens étaient stagiaires, donc il n'y a pas de contrat de travail. Donc là, on sortait des gens d'une catégorie de contrat de travail. Et en même temps, on a développé des formes d'emploi à travers de ce qu'on appelle l'insertion par l'économique, association intermédiaire, entreprise d'intérim d'insertion, où sous réserve que les gens étaient en extrême difficulté et peu employables, c'est-à-dire qu'on inverse, c'est pas les patrons qui donnent pas de boulot, ce sont les gens qui sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent plus travailler. Moi, je pense, ça a servi de laboratoire pour, de fait, des nouvelles formes d'emploi qui sont peut-être maintenant, qui sont en germe avec le CNE-CPE, c'est-à-dire où là, on va s'attaquer au noyau dur, le CDI. Et on voit aujourd'hui, par exemple, moi, je vais vous donner un exemple, où des communes, maintenant, ce que vous pensez être les employés municipaux,
sont de fait des gens mis à disposition par des associations intermédiaires, de personnes en difficulté financées par les impôts, qui travaillent depuis des années avec des contrats renouvelés chaque semaine pour entretenir les espaces verts. Il y a 300 personnes qui sont dans cette situation en permanence depuis 5 ans. Alors que je suis sûr que la majorité des habitants de la commune pensent même que ce sont des employés municipaux. Et ça, ça s'est développé de manière exponentielle.
Donc c'est-à-dire que on a parlé du CDD et de l'intérim, mais à côté de ça, il y a eu un certain nombre de d'autres formes d'emploi, comme le contrat emploi solidarité, le contrat emploi consolidé, les travaux d'utilité collective, un certain nombre de stages, contrats adultes relais, je ne sais pas, qui ont contribué eux aussi à fragiliser la norme qui est le contrat à durée déterminée, qui est le CDI.
Là, c'est un point de vue personnel. Je pense qu'ils ont servi de ballon d'essai et d'expérimentation sur ce qui était faisable, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, pour aller vers ces nouvelles propositions de dire, il faut que là, on pète le CDI.
Qu'on pète le CDI pour le secteur privé et qu'on on pète le statut public pour le secteur public.
Mais alors, la difficulté, c'est que tout ça s'est développé, mais en père et maman, non, ce discours qui accompagnait ça, c'était un discours toujours un peu compassionnel. C'était le discours de l'aide aux personnes en difficulté.
Bien sûr, complètement.
On a dit 72, légalisation de l'intérim, 79, légalisation et encadrement du CTD, 82, la même chose, plus acceptation de la flexibilité. Ensuite, pendant deux décennies, ça se développe, notamment sur ces bases juridiques-là, se développe l'intérim et les contrats précaires. Et là, on assiste comme à une accélération de l'histoire depuis quelques années, parce que malgré tout, il y a une résistance du contrat à durée déterminée, qui représente aujourd'hui 90% des salariés. Depuis l'an dernier, c'est comme si on avait décidé de s'en prendre directement, frontalement maintenant, au contrat à durée indéterminée.
À force d'avoir tout expérimenté en matière de flexibilité, on se dit que on pourra aller difficilement aller plus loin. Donc si on veut une étape supplémentaire au nom de la mondialisation et d'une économie libre et sans entrave, maintenant, il faut passer aux travaux pratiques à l'étape supérieure. Je pense que c'est à ça auquel on est confronté aujourd'hui, dans le cadre d'une construction européenne qui, compromis de Lisbonne et tout, a inscrit ce calendrier à l'ordre du jour.
Parce que pour vous, toutes ces décisions-là sont des décisions purement françaises ou bien elles s'inscrivent dans un contexte européen, dans un contexte international?
Oui, non, il y a un contexte européen qui est manifestement libéral. C'est le discours rémanent de l'OCDE, la rigidité des marchés du travail. L'OCDE tape sur les doigts d'un certain nombre de pays sur leur dette extérieure et sur les rigidités du marché du travail.
Aujourd'hui, on voit qu'il y a une bataille sur le CPE, mais finalement, le CNE est quasiment, le contrat nouvelle embauche est quasiment plus important encore que le CPE, puisqu'il concerne 80% des salariés aujourd'hui sont dans des entreprises de moins de 20 salariés, donc sont concernés par le CNE. Si aujourd'hui il y a une victoire sur le CPE, mais que le CNE demeure en place, l'essentiel aura quand même été perdu ou...
On a un gouvernement qui a compris que on passe plein de petites lois. C'est-à-dire que, actuellement, pour les inspecteurs du travail, c'est vrai pour tous les juristes, suivre l'évolution du droit du travail et savoir exactement quel est le droit applicable à l'instant T devient quasiment mission impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un texte, au lieu d'avoir une grande loi qui va tout reprendre, comme on a un peu, qui balaye tout, chaque loi aura son petit morceau. Tac, un petit bout, un petit bout, un petit bout, un petit bout. C'est un effet thromboscopique, on arrive à rendre fou, c'est presque l'épilepsie, parce que on a du mal à savoir. Donc là, je pense que le CNE, CPE, c'est la même mesure.
C'est-à-dire qu'à côté des, on parlait des grandes dates de la précarité, c'est quasiment devenu impossible d'avoir des grandes dates de la précarité, tant il y a de petites dates qui se succèdent. Tous les trois mois, il y a des petits bouts de réformes qui se mettent en place, c'est ça?
Depuis 2002, c'est évident. À chaque loi, tous les mois, en six mois, si vous balayez en six mois l'évolution du droit social, c'est faramineux. Donc là, on le fait par coin, c'est-à-dire que on commence par les entreprises de moins de 20 salariés, CNE, pour tous les salariés. Et puis le CPE, dont on dit que c'est pour les jeunes, mais le CNE est déjà pour les jeunes dans les petites entreprises. Donc on a d'abord fait par rapport à la taille de l'entreprise. Maintenant, on prend le critère de l'âge dans les entreprises de plus de 20 salariés. Mais au niveau du droit, on voit bien que ce sont des étapes pour aller demain sur une remise en cause généralisée du CDI pour tout le monde. C'est bien ça. C'est plus, à mon avis, de la technique politique juridique. Et le CNE comme le CPE, on revient à la situation antérieure à 73. C'est-à-dire que depuis la loi 73, on n'a pas le droit de licencier quelqu'un sans cause réelle et sérieuse. Là, on en arrive à une solution où il n'y a plus à justifier du motif du licenciement pendant 2 ans.
Voilà, grand bond en arrière, le CNE, c'est pas seulement la génération précaire, c'est tout un monde précaire. On va finir avec Pierre Concialdi, qui est chercheur à l'IRES et qui brosse un tableau plus précis, peut-être encore, du phénomène.
Alors, on se trouve avec Pierre Concialdi, qui est économiste, chercheur à l'IRES, à l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Vous avez des ordres de grandeur sur la précarité dans l'emploi.
L'intérim, d'abord, il y avait moins de 100 000 emplois d'intérimaires au début des années 80. On est à plus de 500 000, 550 000 aujourd'hui, donc une multiplication par 5. Pour les CDD, c'est pareil, multiplication par 4. On a aujourd'hui 1 200 000 emplois en CDD, et on avait moins de 300 000 en 83. Et l'ensemble de ce qu'on appelle les stages et les contrats aidés, là aussi, il y a une multiplication de plus de 3 en 20 ans, puisqu'on est aujourd'hui à près de 800 000 emplois de ce type contre 200 000 environ au début des années 80.
D'accord, donc là, il y a une multiplication par 4 pour les CDD, multiplication par 5 pour l'intérim.
Oui, alors le patronat parle, lui, de flexibilité, mais pour effectivement, le revers de la médaille pour les salariés, c'est la précarité. C'est son maître mot depuis le début des années 80, hein, effectivement. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a aucun lien entre la flexibilité de l'emploi et le volume de l'emploi. Même les études les plus récentes montreraient qu'il n'y aurait quasiment pas de création d'emploi avec le CPE.
Vous dites que c'est pas parce qu'il y a plus de flexibilité qu'il y a plus d'emplois qui sont créés?
Absolument pas. Il n'y a aucune étude empirique qui montre un lien entre flexibilité de l'emploi et volume de l'emploi.
Qui gagne cette précarité alors?
Clairement, ce ne sont pas les salariés qui vont y gagner. Et donc les grands gagnants, depuis 20 ans, c'est clair que ce sont les entreprises, au moins si on regarde leurs comptes, puisque les profits ont explosé depuis 20 ans. On a un indicateur simple en économie, c'est le partage des revenus entre les revenus du travail et les revenus du capital, ou les profits si on veut. Et bien, la part de ces revenus du capital, donc ces profits, a augmenté de 10 points depuis le début des années 80.
Il y a 10 points du PIB qui vont plus dans les poches des salariés, mais qui vont dans les poches des actionnaires. C'est ça un peu où...
Ça va effectivement aux actionnaires qui détiennent ces actions. Ce qui équivaut aujourd'hui à un transfert annuel de plus de 100 milliards d'euros, c'est-à-dire plus de 10 fois le déficit annuel de la sécurité sociale.
Et quel lien vous faites entre l'installation de cette précarité et ces 100 à 150 milliards d'euros qui chaque année sont passés de la poche du travail vers la poche du capital, vers la poche de l'actionnaire?
Ben, il est évident que de plus en plus, les employeurs demandent finalement à ne payer que le temps de travail directement productif. On voit bien avec le CPE, c'est je veux pouvoir employer un salarié juste le jour à la limite où j'en aurais besoin et le lendemain, je n'ai pas besoin de l'employer. Ce qui fait qu'évidemment, ça rentabilise en quelque sorte davantage l'emploi de la force de travail de la part des employeurs et ça contribue à nourrir la croissance des profits.
Demain, ce sera Place d'Italie à 14h30, mais ce sera partout en France. Et on en aura, j'en suis sûr, des échos sur le répondeur de là-bas. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On attend pour après-demain vos reportables, vos analyses, vos témoignages sur la journée de demain. C'était un reportage de François Ruffin. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Merci à Yves, Gilbert, Gérald, Guillaume qui s'exprimait dans le cadre de l'expression syndicale et à Pierre Concialdi, technique aujourd'hui, Clément Léotard et Julien Chabassu. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et générale, assisté de Pascal, Pascariello et Christophe Imbert. Le répondeur, je le répète, c'est le 01 56 40 37 37 et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com.